Alors, je vous invite à ouvrir votre Bible dans le livre de l'Exode, parce qu'on va continuer donc cette série qu'on fait dans le livre de l'Exode. On a arrêté pendant plusieurs semaines parce qu'il y a eu les fêtes de Noël, de Nouvel An. Ensuite, j'ai prêché sur le livre de Daniel, mais là, on va reprendre donc la suite du livre de l'Exode. Et on était resté au chapitre 5, et on va lire ce matin les chapitres 5 et 6 presque en entier. C'est une assez longue lecture, mais on va faire cette lecture-là pour avoir tout ce qui nous servira pour le message qui sera pas trop long. Donc, Exode chapitre 5, verset 1. Dieu vient d'envoyer Moïse et Aaron auprès du peuple en Égypte. Donc on reprend le récit à cet endroit-là. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès du Pharaon et lui dirent: « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse partir mon peuple pour qu'il célèbre une fête en mon honneur au désert. » Le Pharaon répondit: « Qui est l'Éternel pour que je lui obéisse en laissant partir Israël? Je ne connais pas l'Éternel, aussi je ne laisserai pas partir Israël. » Ils dirent: Le Dieu des Hébreux est venu au-devant de nous. Accorde-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. Le roi d'Égypte leur dit: Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Allez à vos travaux. Le pharaon dit: C'est maintenant où cette population née dans le pays est devenue nombreuse que vous allez interrompre ses travaux? Et le jour même, le pharaon donna cet ordre aux inspecteurs du peuple et aux commissaires: Vous ne donnerez plus comme auparavant de la paille au peuple pour faire des briques, qu'ils aillent eux-mêmes se ramasser de la paille. Vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant, vous ne la diminuerez en rien, car ce sont des paresseux. Voilà pourquoi ils crient en disant: Allons offrir des sacrifices à notre Dieu. Accablez ces gens de travail, qu'ils aient par là de quoi s'occuper et ne prennent plus garde à des faussetés. Les inspecteurs du peuple et les commissaires allèrent dire au peuple: Ainsi parle le pharaon, je ne vous donne plus de paille. Allez vous-même vous procurer de la paille où vous en trouverez, car l'on ne diminue en rien votre tâche. Le peuple se dispersa dans tout le pays d'Égypte pour ramasser du chaume au lieu de paille. Les inspecteurs les pressaient en disant, Finissez votre ouvrage journalier comme quand il y avait de la paille. On frappait même les commissaires des Israélites établis sur eux par les inspecteurs du Pharaon. Pourquoi, disait-on, n'avez-vous pas fini de pétrir hier et aujourd'hui le nombre de briques qui vous étaient imposées comme avant? Les commissaires des Israélites allèrent se plaindre au Pharaon et lui dirent: Pourquoi traites-tu ainsi tes serviteurs? On ne donne pas de paille à tes serviteurs et l'on nous dit: Faites des briques. Alors tes serviteurs sont battus et c'est ton peuple qui est en faute. Le pharaon répondit: Vous êtes des paresseux. Voilà pourquoi vous dites: Allons offrir des sacrifices à l'Éternel. Maintenant, allez à votre tâche, on ne vous donnera pas de paille et vous livrerez la même quantité de briques. Les commissaires des Israélites virent qu'on les rendait malheureux en disant: Vous ne diminuerez rien du nombre de briques à livrer chaque jour. En sortant de chez le pharaon, ils rejoignirent Moïse et Aaron qui les attendaient. Ils leur dirent: Que l'Éternel vous regarde et qu'il juge. Vous nous avez rendus odieux au Pharaon et à ses serviteurs. Vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous tuer. Moïse retourna vers l'Éternel et dit: Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé? Depuis que je suis allé vers le Pharaon pour parler en ton nom, il fait du mal à ce peuple et tu n'as pas du tout délivré ton peuple. L'Éternel dit à Moïse: Tu verras maintenant ce que je vais faire au Pharaon. C'est sous l'emprise d'une main puissante qu'il laissera partir le peuple, et sous cette emprise qu'il le chassera de son pays. Dieu parla encore à Moïse et lui dit: Moi, je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je n'ai pas été reconnu par eux sous mon nom, l'Éternel. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays où ils ont séjourné, où ils ont immigré. Moi, j'ai entendu le soupir des Israélites que les Égyptiens asservissent, et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi, dis aux Israélites, je suis l'Éternel. Je vous affranchirai des travaux pénibles dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de la servitude à laquelle ils vous soumettent, et je vous rachèterai par la force de mon bras et par de grands jugements. Je vous prendrai pour que vous soyez mon peuple, je serai votre Dieu, et vous reconnaîtrez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchis des travaux pénibles dont vous chargent les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi, l'Éternel. C'est ainsi que Moïse parla aux Israélites, mais ils n'écoutèrent pas Moïse à cause de leur impatience et de leur dure servitude. L'Éternel parla à Moïse et dit: Va, parle au Pharaon, roi d'Égypte, pour qu'il laisse partir les Israélites hors de son pays. Moïse répondit en présence de l'Éternel: Alors que les Israélites ne m'ont pas écouté, comment le Pharaon m'écouterait-il, moi qui ai des lèvres malhabiles? L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et leur donna des ordres au sujet des Israélites et du Pharaon, roi d'Égypte, pour faire sortir les Israélites du pays d'Égypte. Voilà, je vais m'arrêter ici, cette lecture. Le chapitre se termine avec une généalogie qui est pas inintéressante, mais ça ferait trop à voir, donc on va s'arrêter là pour ces deux chapitres. Et il y a quelque chose qui devrait nous interpeller tout de suite quand on lit ces deux chapitres, qui devrait nous faire froncer les sourcils un peu en lisant ce passage, lorsqu'on les considère surtout dans leur contexte. Je ne sais pas si vous vous rappelez où on en est dans l'histoire du peuple d'Israël. Ça fait assez longtemps, mais vous vous rappelez certainement qu'on avait vu que le peuple de Dieu est esclave en Égypte, victime d'un génocide orchestré par le pharaon. Ça, c'est ce qu'on avait vu dans les chapitres 1 et 2. Alors, ce n'est pas le même pharaon qui se trouve ici, mais on voit bien qu'il y a une continuité, hein, les choses n'ont pas beaucoup changé. Il continue d'opprimer le peuple ici. Et Dieu avait appelé Moïse au buisson ardent, vous vous rappelez de ça, et il l'avait envoyé auprès de son peuple en Égypte. C'est ce qu'on avait vu dans les chapitres 3 et 4. Ça, c'est ce qui précède notre passage. Et directement à partir du chapitre suivant, chapitre 7, on entre dans ce cycle de 10 plaies, les 10 plaies d'Égypte, ce processus qui amorce le processus de délivrance pour que, enfin, au chapitre 12, Dieu brise les chaînes vraiment qui retenaient le peuple d'Israël en captif, et pour que le peuple d'Israël puisse quitter l'Égypte et prendre la route du désert et de la terre promise. Donc ça, si vous voulez, c'est l'histoire au sein de laquelle on se trouve. Et je ne sais pas s'il y a quelque chose qui vous frappe quand on réfléchit comme ça à la grande histoire. Ce qui est surprenant selon moi, c'est que, à première vue, ces chapitres 5 et 6 sont superflus. Ils ajoutent rien, en tout cas, il semble, au fil de l'histoire. On comprend très bien le fil de l'histoire sans les avoir. Et donc, on est amené à se demander, qu'est-ce que Dieu veut bien nous dire par ce passage qu'on vient de lire? L'apôtre Paul nous dit que toute l'écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne, c'est ce qu'il dit en 2 Timothée 3,16. Alors, qu'est-ce que ce passage qui fait partie de la parole inspirée de Dieu, qu'est-ce qu'il nous enseigne? Et je pense que pour répondre à cette question, il faut juste nous rappeler qui est l'auteur de ces pages et à l'intention de qui est-ce qu'il les écrit. Et la réponse au qui, on la trouve à plusieurs endroits dans le livre de l'Exode. Je pourrais vous diriger vers Exode chapitre 24 ou Exode chapitre 34, mais venez voir peut-être avec moi juste au chapitre 17. Chapitre 17, verset 14. Le peuple est sorti du pays d'Égypte, il est dans le désert. Israël vient de gagner une bataille contre une peuplade qui s'appelle Amalek, et on lit en Exode 17, verset 14, que l'Éternel dit à Moïse: Écris ces choses comme souvenir dans le livre, et déclare à Josué que j'effacerai le souvenir d'Amalek de dessous les cieux. Donc c'est Moïse qui écrit, on le voit bien ici, Dieu lui demande d'écrire ces choses, probablement ce qui vient de se passer dans le désert, mais probablement aussi ce qui s'est passé auparavant dans la sortie du pays d'Égypte. Et à l'intention de qui est-ce que Moïse doit écrire? Vous voyez ici qu'il est dit qu'il doit écrire ces choses comme souvenir donc pour le peuple d'Israël et pour les générations suivantes d'Israélites, le peuple qui, dans son pèlerinage dans le désert, jusque dans la terre promise, voyait sa foi mise à l'épreuve. Ils avaient obéi à Dieu en quittant le pays d'Égypte, mais pour se retrouver dans le désert, à devoir se confier en Dieu 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, pour leur subsistance, pour que Dieu leur donne à manger, qu'il leur donne à boire. Et c'était dur, c'était tellement dur que certains voulaient rentrer en Égypte. C'était d'ailleurs intéressant que David lise ce psaume, le psaume 95, où il était question de cette génération dans le désert, justement, qui s'est rebellée et qui est morte dans le désert. Et donc, Moïse écrit ces choses comme souvenir pour les générations futures d'Israélites et pour nous aussi. Et donc, ces chapitres 5 et 6 sont là aussi pour nous aider et aider le peuple qui voyait que leur foi en Dieu, leur fidélité à Dieu, n'avait fait que rendre leur vie plus difficile en fait. Que faire lorsque notre fidélité à Dieu nous met dans des difficultés, ne fait que nous rendre la vie plus difficile, nous fait passer par des temps d'épreuve? On est nous aussi en pèlerinage, comme le peuple d'Israël, à travers ce temps présent, cet âge présent, en route pour la terre promise, la nouvelle création qui nous attend, et notre foi à nous est aussi mise à l'épreuve. Imaginez une chrétienne qui entre à l'université ou qui change d'école ou qui change de travail. Ça vous est certainement arrivé, comme ça pourrait arriver à cette personne, que lorsqu'après avoir été simplement ouverte sur ses convictions, sur sa foi, elle constate que petit à petit les relations qu'elle avait commencé à tisser se refroidissent. Peut-être les gens en face sont toujours très souriants, mais qu'elle n'arrive plus à lier vraiment amitié comme auparavant. Et que du coup, elle a de moins en moins d'occasions de partager sa foi. C'est bizarre. Pourquoi, si elle a été fidèle à Dieu dans son témoignage chrétien, est-ce que Dieu lui retire des opportunités de partager sa foi? Ou que répondre à un chrétien qui, parce qu'il cherche à être honnête, s'expose à devoir payer plus de taxes, s'expose à peut-être devoir renoncer à une promotion au travail, ou dans un autre registre. Je suis sûr que vous connaissez des personnes. Que faire pour un homme, par exemple, qui vient à la foi et dont la femme, qui n'est pas chrétienne, ne voit pas les changements dans sa vie d'un bon œil? Il commence à passer ses dimanches à l'église, il semble avoir plus de choses à dire à ses amis chrétiens qu'à elle-même, et elle en vient à lui donner le choix finalement entre elle et Jésus, et peut-être finir par elle va peut-être finir par le quitter. On connaît tous des personnes qui ont vécu des choses comme ça. Que faire lorsque notre foi en Dieu nous rend la vie dure et nous amène dans des difficultés comme ça? Et il me semble qu'il y a trois choses que ce passage nous encourage à faire. La première, c'est de réviser les attentes qui sont les nôtres. La deuxième, c'est de relativiser l'adversité que nous rencontrons. Et la troisième, c'est de reconsidérer l'assurance qui est la nôtre en Dieu. Donc, premièrement, réviser les attentes qui sont les nôtres. Réviser nos attentes. C'est ce que, en fait, tant Moïse et Aaron que le peuple d'Israël en général doit faire dans ce passage. Regardez au verset 1 tout d'abord. C'est Moïse et Aaron qui tout d'abord semblent ne pas comprendre ce qui leur arrive lorsqu'ils sont mis face au refus du Pharaon. Verset 1, Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès du Pharaon et lui dirent: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse partir mon peuple pour qu'il célèbre une fête en mon honneur au désert. Et le Pharaon refuse. Hein, qui est l'Éternel, etc. Je ne vais pas laisser partir le peuple. Et Moïse et Aaron ne semblent pas comprendre ce qui leur arrive. Ils ont été fidèles à Dieu, ils ont obéi à l'ordre que Dieu leur avait donné d'aller auprès de Pharaon pour lui dire de laisser partir le peuple. Ils refusent. Alors ils répètent encore une fois au verset 3. Ils dirent, le Dieu des Hébreux est venu au-devant de nous, accorde-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel notre Dieu, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. Je précise juste une chose dans ce verset 3, on pourrait croire que Moïse est en train d'essayer de trouver un arrangement, hein, que le pharaon lui a dit non, et donc il n'accepte pas qu'il parte, et donc Moïse essaye de trouver un compromis, il dit ben, laisse-nous partir seulement 3 jours, mais c'est pas ça, parce que quand il parle des 3 jours, les 3 jours, ça n'indique pas le total du temps passé en dehors du pays d'Égypte, mais le temps qu'il leur faudrait pour sortir du pays sans qu'il y ait l'idée d'un retour. Donc il n'est pas en train d'essayer de faire un compromis, Moïse, il dit simplement la même chose. Il répète la même chose de manière même en fait un peu plus insistante. Il leur dit, laisse-nous partir, sinon l'Éternel, notre Dieu, nous frappera de la peste et de l'épée. C'est comme si Moïse et Aaron sont là-devant et ils se disaient, et c'est comme s'ils se disent, mais c'est pas possible. Il a pas dû nous comprendre. Lis sur nos lèvres, c'est Dieu qui est en train de te parler, c'est Dieu qui nous envoie, c'est Dieu qui te parle, pas juste deux vieillards. Laisse partir le peuple. Mais Pharaon refuse donc, et pour être sûr que le peuple ne parte pas, il les surcharge de travail. Résultat, verset 15. C'est plus que Moïse et Aaron qui ne comprennent pas ce qui leur arrive, mais c'est tout le peuple. Verset 15, les commissaires des Israélites allèrent se plaindre au Pharaon et lui dirent, pourquoi traites-tu ainsi tes serviteurs? On ne donne pas de paille à tes serviteurs et l'on nous dit, faites des briques. Alors tes serviteurs sont battus, mais c'est ton peuple qui est en faute. C'est presque touchant parce qu'on dirait qu'ils croient qu'il y a un malentendu. Ils viennent vers lui, ils disent, mais on nous bat, mais c'est pas notre faute, c'est la faute de ton peuple. Comme si Pharaon n'était pas au courant et que dès qu'il le saura, il va régler le malentendu. Mais c'est pas du tout le cas, bien sûr. Pharaon les traite de paresseux, il les renvoie. Et tout de suite, ils comprennent au verset 19. Les commissaires des Israélites virent qu'on les rendait malheureux, ou dans une traduction un peu plus claire, qu'on les mettait dans une situation difficile en disant. Vous ne diminuerez rien du nombre de briques à livrer chaque jour. Voilà la surprise, autant pour Moïse et Aaron que pour le peuple. Mais le problème, dans un cas comme dans l'autre, tant pour Moïse et Aaron que pour le peuple, c'est que ils avaient des fausses attentes. Des fausses attentes. Ils avaient une écoute partielle et sélective, en fait, des promesses de Dieu. Ils avaient très bien compris que Dieu leur avait promis de les délivrer. Mais ils n'avaient pas prêté attention aux paroles exactes de Dieu. Je ne sais pas si vous vous rappelez, si vous venez avec moi, on l'avait lu au chapitre 3, verset 18. Dieu avait annoncé tout ça au chapitre 3, verset 18, lorsqu'il avait parlé à Moïse, qu'il l'avait envoyé vers les Israélites. Il disait à Moïse, chapitre 3, verset 18, ils écouteront ta voix, et tu iras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte, et vous lui direz. Donc exactement ce que Moïse et Aaron vont lui dire dans notre passage, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, est venu au-devant de nous, maintenant accorde-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel notre Dieu. Et écoutez bien, je sais que le roi d'Égypte ne vous permettra pas d'aller, pas même sous l'emprise d'une main puissante. J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de miracles que je ferai au milieu d'elle, après quoi il vous laissera partir. Donc ça, c'est ce que Dieu avait dit à Moïse très précisément. Et rappelez-vous que Moïse avait rapporté au peuple d'Israël tout ce que Dieu lui avait dit. Si vous allez à la fin du chapitre 4, ça c'est important de le voir aussi. C'est pas que Moïse qui était au courant de ça, tous le savaient. Chapitre 4, verset 29. Moïse et Aaron s'en allèrent et rentrèrent en Égypte et rassemblèrent tous les anciens des Israélites. Aaron rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse et il opéra les signes aux yeux du peuple. Le peuple crut, ils apprirent que l'Éternel avait visité les Israélites, qu'il avait vu leur misère, et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Donc le peuple savait très bien à quoi s'attendre, mais preuve que leur écoute de la parole de Dieu était partielle et sélective, lorsqu'ils voient que leur foi en Dieu et en Moïse aussi ne fait qu'empirer les choses, ils se rebellent, ils se révoltent et viennent critiquer Moïse. Au verset 21, on le voit lorsqu'ils sortent de chez le Pharaon. Ils approchent Moïse et Aaron et ils leur dirent que l'Éternel vous regarde et qu'il juge. Vous nous avez rendus odieux au Pharaon et à ses serviteurs. Vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous tuer. Voilà un revirement de situation énorme entre la foi et de ce peuple qui s'incline devant Moïse et Aaron. Et les voilà qui sont en train de demander à Dieu de faire tomber son jugement sur eux maintenant. Ils avaient de fausses attentes. Et ce n'est pas un cas isolé dans la Bible de personnes qui, comme ça, auraient dû savoir ce qui devait les attendre, mais n'ont pas voulu savoir. Vous vous rappelez peut-être dans les évangiles, quand Jésus s'adresse à la foule et qu'il leur raconte la parabole du semeur, parabole du semeur qui décrit les différents types de réponses que son message produit inévitablement chez ceux qui l'écoutent. Le semeur va dans son champ, il sème les graines, la parole sur son champ, sur la bonne terre, mais une partie des graines tombe sur le chemin, une partie parmi les pierres, une partie parmi les ronces. Et est-ce que vous vous rappelez ce que Jésus dit justement par rapport à ces graines qui tombent parmi les pierres? C'est frappant, c'est exactement la situation qu'on a ici. Il dit, celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et le reçoit aussitôt avec joie. Hein, voilà le peuple qui se prosterne, qui s'incline aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il est l'homme d'un moment. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Vous voyez, ce dont il est question là, c'est ceux qui ne, on pourrait dire, qui ne calculent pas le prix de suivre Christ ou qui l'oublient. Quel est le coût d'être un disciple du Christ? Et on l'oublie très facilement, n'est-ce pas? Que, comme Paul dit dans le livre des Actes, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Et le problème, très grave avec ça, c'est que, enfin, c'est un problème très grave parce que c'est quand on a de fausses attentes que le découragement nous guette, que la joie est, notre joie est toujours sur le point de s'en aller, parce qu'on a l'impression dès qu'il y a quelque chose dès qu'il y a un obstacle qui surgit, que quelque chose ne va pas, que ça ne devrait pas se passer comme ça, qu'on oublie que l'adversité fait simplement partie de la vie chrétienne, que Dieu s'en sert pour tester notre foi et l'affermir, c'est une première chose. Pour voir si notre foi est bien en lui, pour ce qu'il est et pas pour ce qu'il nous donne. Dieu se sert de l'adversité aussi pour mettre en évidence le péché dans notre vie. C'est C.S. Lewis qui disait que les adversités sont comme des obstacles sur la route de l'enfer, hein. Des obstacles pour nous empêcher d'aller dans cette direction-là. Parce que par l'adversité, Dieu nous amène, nous révèle notre cœur, nous amène à identifier des péchés cachés qu'on n'aurait peut-être pas vus et à y remédier avant que ces péchés ne deviennent des habitudes et nous entraînent sur une pente glissante. Et Dieu se sert aussi encore de l'adversité pour former notre caractère. Dieu est avec nous comme un sculpteur devant un bloc de marbre qui enlève les aspérités, qui arrondit les angles pour arriver à la silhouette qu'il recherche. Dieu est comme ça avec nous aussi. Il se sert de toutes les difficultés de la vie pour enlever nos aspérités, et particulièrement les difficultés, les épreuves qui sont le résultat de notre fidélité à lui, justement. Donc, n'ayons pas de fausses attentes. L'adversité fait partie de la vie chrétienne. Je vais juste vous lire quelques mots de John Stott sur ce sujet. Écoutez juste ce qu'il dit, c'est intéressant. Il dit, le paysage chrétien est, pourrait-on dire, parsemé de tours abandonnées, inachevées, les ruines de ceux qui commencèrent à construire mais furent incapables de continuer. Combien sont-ils qui, chaque année, décident de suivre le Christ sans s'arrêter d'abord pour calculer le prix d'une pareille entreprise? Et puis, il explique un peu pourquoi on a cette tendance à oublier un peu facilement que l'adversité fait partie de la vie chrétienne. Il dit, on veut bien d'une religion respectable, d'un coussin moelleux qui rassure sans déranger, qui protège des désagréments de la vie et peut changer de forme à volonté. Qu'est-ce qu'il dit? On veut bien d'un Dieu qui nous rassure, mais pas d'un Dieu qui nous forme aussi par les difficultés. Et ce qu'il dit en terminant, et je pense assez fort, et il faut entendre ça, il dit, il ne faut pas s'étonner alors lorsque les cyniques parlent d'hypocrites dans l'Église et rejettent la religion comme un échappatoire à la réalité. Ce qu'il veut dire, c'est que quand on a des mauvaises attentes vis-à-vis de Dieu et qu'on ne comprend pas que l'adversité fait partie de la vie chrétienne, ça a même un impact sur nos témoignages chrétiens. Parce que les gens ont tout à fait raison après de dire, mais que finalement c'est simplement un échappatoire à la réalité, une manière de nous rassurer, et non pas un désir de suivre vraiment la vérité et de connaître Dieu, que de suivre Christ. Donc voilà, la première chose qu'on doit faire lorsque notre fidélité à Dieu nous amène dans des situations difficiles, réviser les attentes qui sont les nôtres et nous rappeler que l'adversité fait partie de la vie chrétienne. Et deuxièmement, il nous faut relativiser l'adversité que nous rencontrons. Et je précise tout de suite que je ne dis pas relativiser dans le sens de minimiser ou d'amoindrir les conséquences parfois douloureuses de notre fidélité à Dieu. Ce n'est pas du tout ce que je veux dire. On le voit bien ici avec le peuple d'Israël qui se trouve dans une situation terrible, qui ressemble énormément aux pires heures de la traite des Noirs en Amérique. Par exemple, vous savez qui les Noirs en Amérique dans les champs de coton chantaient beaucoup de chants sur l'Exode, sur le peuple d'Israël en esclavage, parce qu'ils vivaient des choses similaires. C'est une situation vraiment terrible dans laquelle ils se trouvent ici. Et donc je ne suis pas en train d'amoindrir ou minimiser les souffrances que les Israélites ont pu vivre et que certains chrétiens peuvent vivre aujourd'hui encore, qui doivent donner leur vie même pour suivre Christ. Ni même, je ne vais pas non plus amoindrir l'adversité que nous pouvons rencontrer, parce que toute proportion gardée, il peut nous arriver aussi des choses extrêmement difficiles, douloureuses. Est-ce que vous ne connaissez pas, et je sais que vous en connaissez, parce qu'on en parlait même mercredi encore à la réunion de prière, des chrétiens qui, à cause de leur foi, ont vu leur famille couper tout contact avec eux. Des choses comme ça, on en connaît autour de nous, n'est-ce pas? Donc, quand je parle de relativiser l'adversité que nous rencontrons, je suis pas en train de dire qu'il s'agit de minimiser les conséquences parfois douloureuses ou de prétendre que les adversités ne nous affectent pas du tout. Mais c'est simplement de dire qu'il faut mettre ces choses-là en perspective et voir qu'en fin de compte, les ennemis du peuple de Dieu sont les ennemis de Dieu. On le voit très bien dans ce passage, si on y prête attention. On pourrait facilement croire, si on prête pas attention, que la lutte pour la libération d'Israël avait lieu entre Moïse et Pharaon, ou entre Israël et Pharaon, ou entre Israël et l'Égypte, mais c'est rien de tout ça. La lutte est entre l'Éternel et les faux dieux d'Égypte, dont Pharaon est le représentant. Ce qu'il faut juste savoir, c'est que, vous savez, les Égyptiens avaient beaucoup de faux dieux. On en connaît encore aujourd'hui. Il y a des noms comme Horus, Osiris, Isis, des noms de dieux égyptiens qu'on connaît. Mais ils avaient cette idée que, au bout du compte, tous les dieux ne faisaient qu'un. Yann Asman, qui est un égyptologue assez connu aujourd'hui, qui explique que dans la plupart des religions antiques, c'était le cas chez les Grecs par exemple, vous avez Zeus qui est au-dessus de tous les autres dieux, puis il a une espèce de cordon doré comme ça pour tirer à lui tous les autres dieux, et au final ça ne fait plus qu'un dieu. Et c'est pareil dans la religion égyptienne, vous aviez le pharaon qui était Ré, le dieu du soleil, et qui concentrait en lui-même en fait tous les faux dieux. Et donc c'est lui qui s'oppose à Dieu ici. On le voit très bien au verset 2. Lui qui représente tous les faux dieux d'Égypte. Lorsque Moïse et Aaron viennent et disent « Ainsi parle l'Éternel », le Pharaon répondit « Qui est l'Éternel pour que je lui obéisse en laissant partir Israël? Je ne connais pas l'Éternel, aussi je ne laisserai pas partir Israël. » Il faut bien voir que c'est pas, il n'est pas question d'ignorance ici. Il n'est pas en train de dire « Qui est l'Éternel ?» Sous-entendu, j'aimerais bien en connaître un peu plus, parlez-en moi plus, mais s'il n'y a pas, il n'est pas question d'ignorance, mais d'impertinence, d'arrogance. Hein, qui est l'Éternel pour que je le craigne? Qui est l'Éternel pour que je lui obéisse, pour que je laisse partir le peuple? Donc on voit bien que c'est à Dieu qui s'oppose. Alors oui, si vous regardez la suite, il maltraite effectivement le peuple de Dieu, les Israélites. Mais regardez la raison pour laquelle, quel est son but en maltraitant le peuple au verset 9. Il leur ordonne de poursuivre leur travail de fabrication de briques, vais pas rentrer dans le détail là-dessus, mais juste pour clarifier un peu cette histoire avec les briques, très rapidement. L'idée, c'est simplement qu'il est surchargé de travail, d'accord? Non seulement il diminue pas le nombre de briques qu'ils sont censés faire, mais il ne leur fournit pas non plus la paille nécessaire à la fabrication des briques. Et pire, il ne leur permet pas non plus de s'approvisionner en paille. Ils doivent aller eux-mêmes chercher un substitut, du chaume, qui a apparemment été bien plus difficile à se procurer et beaucoup moins pratique à utiliser. Donc ça devient très très difficile pour eux. Tout ça sans réduire le nombre de briques qu'ils sont censés produire. Donc oui, ils s'attaquent aux Israélites, mais regardez quel est le but, pardon, excusez-moi pour ce détour, mais regardez quel était le but au verset 9. Il dit accabler ces gens de travail, qu'ils aient par là de quoi s'occuper et ne prennent plus garde à des faussetés, ou dans une autre traduction de la Bible, qu'ils ne prennent plus garde à des paroles mensongères. Il a sapé l'autorité de Dieu. Au verset 1, qui est l'Éternel? Maintenant, c'est la parole de Dieu qui cherche à discréditer en disant que finalement Dieu ne... en l'accusant de mensonge, en accusant Dieu de mentir. Et il finit même par usurper la place de Dieu. Regardez au verset 10, lorsqu'il envoie les inspecteurs du peuple et les commissaires qui allaient dire au peuple d'Israël, ainsi parle le Pharaon. Et ça fait écho à ce que Moïse et Aaron avaient dit, eux, quand ils venaient devant le Pharaon, ainsi parle l'Éternel. Et voilà le Pharaon qui dit, ainsi parle le Pharaon, et qui tord la parole de Dieu, qui usurpe vraiment la place de Dieu ici. Et les choses n'ont pas changé depuis les origines du monde, en fait, quand on y réfléchit. Dans le jardin, vous vous rappelez, le serpent a sapé l'autorité de Dieu. En discréditant sa parole, l'ordre qu'il avait donné à Adam et Ève de ne pas manger de l'arbre, tout ça pour usurper la place de Dieu, c'est la stratégie du diable aujourd'hui encore dans nos vies aussi. Lorsque nous passons par des difficultés, que notre fidélité à Dieu ne fait qu'augmenter l'adversité, nous fait passer par des épreuves, sa stratégie, c'est quoi? C'est de nous faire croire que tout ça, c'est par rapport à nous, que Dieu peut pas être bon. Hein, vous voyez, de planter le doute dans notre cœur, le doute sur Dieu, le doute sur sa bonté, sur son amour envers nous, nous amener à nous dire, mais j'ai été fidèle en ceci, j'ai obéi à ça, et puis plutôt que de me bénir, voilà, j'ai eu que des ennuis. Hein. Et le résultat, souvent, c'est malheureusement, vous le savez comme moi, c'est qu'on finit bien souvent par accuser Dieu d'un mal qui n'est pas du tout qui ne vient pas du tout de lui. Et le résultat chez nous est le même qu'ici, et le résultat ici est le même que dans le jardin d'Éden. Vous vous rappelez, Ève rejette la faute sur Adam, qui rejette la faute sur le serpent. Ici, les Israélites, on l'a vu tout à l'heure, rejettent la faute sur Moïse et Aaron. Ils demandent à Dieu de faire tomber son jugement sur eux. Et que fait Moïse? Verset 22, il rejette la faute sur Dieu. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé? Depuis que je suis allé vers le Pharaon pour parler en ton nom, il fait du mal à ce peuple et tu n'as pas du tout délivré ton peuple. Est-ce qu'il ne vous arrive pas aussi de rejeter la faute sur Dieu pour des choses auxquelles on devrait s'attendre, des choses qui font partie de la vie chrétienne, des renoncements qui font partie de la vie chrétienne, et des tas de difficultés qu'on doit vivre, des renoncements qui sont simplement voilà, des renoncements auxquels on doit consentir parce qu'ils vont contre la volonté de Dieu, des pratiques qu'on doit abandonner, des choses qu'on aime peut-être, qu'on doit abandonner, des amitiés qu'on doit abandonner, etc. Et tout ça simplement. Et qui nous amène parfois à accuser Dieu simplement parce qu'on a des fausses attentes et qu'on oublie que ça fait partie intégrante de la vie chrétienne. Vous voyez, le problème, c'est que lorsqu'on relativise pas l'adversité, qu'on ne la met pas dans sa bonne perspective, on se croit être au cœur du conflit. On croit que c'est par rapport à nous. Si ma fidélité à Dieu ne fait que me rendre la vie plus difficile, mais c'est pas par rapport à nous. C'est par rapport à Dieu. Rappelez-vous les paroles Christ en Matthieu 24 qui dit à ses disciples, alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir, ce qui est arrivé à certains de ses disciples, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. À cause de mon nom. C'est pas comme si Jésus ne nous avait pas prévenus. Je vous lis encore un autre passage en Jean 15. Si le monde a de la haine pour vous, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aime ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde a de la haine pour vous. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais tout cela, ils vous le feront à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Alors que nous puissions apprendre à relativiser l'adversité que nous rencontrons en nous rappelant que les ennemis du peuple de Dieu sont avant tout les ennemis de Dieu, et que ce n'est pas par rapport à nous, mais que c'est par rapport à Dieu. Et la dernière chose qu'il faut nous rappeler lorsqu'on est amené par notre fidélité à Dieu à nous mettre dans des circonstances difficiles, à devoir faire des renoncements qui nous coûtent, la dernière chose, donc réviser nos attentes et comme on vient de le voir maintenant, de réfléchir aussi à l'adversité, et troisièmement, de reconsidérer l'assurance que nous avons en Dieu, c'est la dernière chose. Reconsidérer notre assurance. Une fois de plus, dans l'Exode, lorsque les hommes, c'était Moïse généralement jusqu'ici, ici encore, lorsque les hommes émettent des doutes au sujet du plan de Dieu, ou qui soulèvent des objections, vous pouvez rappeler dans le chapitre 3 et 4 toutes les objections que Moïse avait soulevées pour pas être envoyé au peuple d'Israël. Qui suis-je pour aller vers le Pharaon? Les Israélites vont jamais m'écouter. Ah Seigneur, je ne sais pas parler. Ah Seigneur, envoie quelqu'un d'autre. Ici, on le voit encore à la fin du chapitre, enfin à la fin du passage, j'ai lu tout à l'heure, Moïse dit encore, mais si les Israélites m'ont pas écouté, comment le Pharaon m'écouterait, moi qui ai des lèvres malhabiles? À chaque fois que Moïse soulève une objection, Dieu ne répond pas à ces objections en entrant dans une longue discussion ou en essayant de se justifier ou de justifier ses choix. Lorsque Moïse lui avait dit, qui suis-je? Au chapitre 3, Jésus a répondu en disant, je suis. Et ici c'est pareil. Chapitre 6, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je vais faire au Pharaon. C'est sous l'emprise d'une main puissante qu'il laissera partir le peuple et sous cette emprise qu'il le chassera de son pays. Et puis ensuite, il répète, dans la suite, il répète simplement ce qu'il avait déjà dit à Moïse au buisson ardent, qu'il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, qui s'est souvenu de son alliance, qu'il a entendu le cri des Israélites, et il conclut comme ça au verset 6, 7 et 8. Et il faut qu'on relise ces versets, parce que c'est un des passages clés du livre de l'Exode, d'accord? Verset 6, Dieu conclut comme ça, c'est pourquoi, dis aux Israélites, je suis l'Éternel. Je vous affranchirai des travaux pénibles dont vous chargent les Égyptiens, je vous délivrerai de la servitude à laquelle ils vous soumettent, et je vous rachèterai par la force de mon bras et par de grands jugements. Remarquez ici qu'il est question de la délivrance que Dieu va opérer. Verset 7, je vous prendrai pour que vous soyez mon peuple, je serai votre Dieu, et vous reconnaîtrez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous a franchi des travaux pénibles dont vous chargent les Égyptiens. Vous voyez ici qu'au verset 7, il n'est plus question de la délivrance, mais de l'alliance que Dieu va passer. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Et puis verset 8, je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi, l'Éternel. Et vous remarquez qu'ici, il n'est plus question ni de la délivrance, ni de l'alliance, mais de la présence de Dieu parmi son peuple dans la terre promise. Et donc ça, c'est les trois choses que Dieu annonce ici, la délivrance, l'alliance et la présence parmi son peuple. Et à chaque fois, il insiste, je, c'est moi qui vais délivrer mon peuple, c'est moi qui vais passer alliance, c'est moi qui vais manifester parmi ma présence parmi mon peuple. Et je dis que c'est un des passages clés du livre de l'Exode parce que c'est comme si on nous donnait un peu le menu. On a comme la carte du menu avec l'entrée, le plat principal, pour être sûr qu'on a assez de place pour le dessert. On a vraiment les trois grands mouvements de la suite du plan de rédemption de Dieu, de l'histoire du salut, les trois grandes parties du livre de l'Exode, en fait. La rédemption que Dieu va accomplir en délivrant Israël de l'esclavage, ça c'est le verset 6, c'est tous les prochains chapitres. Ensuite, la relation que Dieu va lier avec son peuple en passant alliance avec lui au mont Sinaï, c'est toute la partie centrale du livre de l'Exode. Et puis enfin, le repos, verset 8 ici, que Dieu leur accordera dans sa présence, dans la terre promise, c'est toute la fin du livre de l'Exode. Donc on a ces trois mouvements, et ce sur quoi Dieu insiste et insiste encore, c'est sur le moi, sur le je. C'est moi qui agirai à chacune de ces étapes et qui mènerai toute chose à bonne fin. Essayez de vous rappeler par rapport à ce que je disais au début, qu'est-ce qui aurait pu encourager plus la génération d'Israélites dans le désert, en train de souffrir dans le désert? Qu'est-ce qui aurait pu les encourager plus que de savoir ça, que du début à la fin, le salut appartient à l'Éternel? Et qu'est-ce qui pourrait nous encourager plus que de savoir que ce qui est vrai de l'histoire du salut, que du début à la fin, Dieu est en contrôle, que c'est lui qui mène tout à bonne fin, c'est lui qui a délivré son peuple, c'est lui qui l'a amené pour faire alliance avec lui, c'est lui qui l'a amené jusque dans la terre promise, c'est lui qui a maintenu un reste fidèle jusqu'à la venue du Messie. Qu'est-ce qui pourrait nous encourager nous plus que de savoir que ce qui est vrai de l'histoire du salut est vrai aussi de l'ordre du salut. C'est-à-dire, non pas les étapes consécutives comme ça de l'œuvre de Dieu dans l'histoire pour accomplir son salut, mais les étapes consécutives de l'œuvre de Dieu dans notre vie à chacun pour appliquer son salut à chacun de nous personnellement. C'est ça l'ordre du salut. Vous vous rappelez ce que Paul dit en Romains 8, ceux que Dieu a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Du début à la fin, le salut appartient à l'Éternel. Et c'est ça qui fait dire à Paul, toujours dans ce passage en Romains 8, qui est la suite de ce que David a lu tout à l'heure, il dit, je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus, notre Seigneur. Je disais en introduction, notre situation à nous est finalement très similaire à celle du peuple d'Israël dans le désert. On est en pèlerinage dans cette vie, en route pour la terre promise, pour la nouvelle création, où nous entrerons dans le repos de Dieu réellement. Et lorsque notre foi est mise à l'épreuve par toutes les difficultés qui peuvent survenir et qui relèvent simplement du fait justement que nous sommes pèlerins dans cette terre, que notre cité est dans les cieux, que nous puissions nous rappeler que du début à la fin, le salut appartient à l'Éternel, et constamment réviser nos attentes, nous rappeler que ces souffrances que nous pouvons vivre, ces renoncements que nous avons à vivre font partie intégrante de la vie chrétienne, que nous puissions relativiser l'adversité, nous rappeler que les ennemis du peuple de Dieu sont avant tout les ennemis de Dieu, et que nous sommes simplement en train de marcher dans les traces de Jésus-Christ. Et troisièmement, que nous puissions aussi reconsidérer cette assurance que nous avons en Dieu, qu'il est souverain dans l'histoire pour avoir accompli son salut, il est souverain dans nos vies, appliquer son salut et amener notre salut jusqu'au bout. J'aimerais juste conclure simplement en dirigeant nos regards vers notre Seigneur Jésus-Christ, parce que il y a des liens forts entre la figure de Moïse dans notre passage et ce qu'a vécu Jésus-Christ. Tous deux ont été envoyés par Dieu pour sauver leur peuple. Tous deux ont commencé par accomplir des signes et des miracles aux yeux du peuple. Dans un cas comme dans l'autre, le peuple, dans un premier temps, croit, il s'incline, il se prosterne, ici on l'a vu, comme les foules qui s'assemblent autour de Jésus dans un premier temps. Mais lorsque la délivrance apportée, que ce soit par Moïse ou par Jésus, ne correspond pas aux attentes du peuple, ils se détournent, ils abandonnent et ils accusent et demandent même à Dieu, on l'a lu tout à l'heure, de faire tomber son jugement sur celui qu'il a justement choisi pour les délivrer. Vous voyez les convergences entre Moïse, l'intermédiaire entre Dieu et le peuple, qui préfigure déjà le seul vrai médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Il y a des vraies ressemblances, mais à la différence de Moïse, Dieu a fait tomber son jugement sur Jésus. Jésus s'est offert, contrairement à Moïse, lorsque tous se sont retournés contre lui, Christ, lui, ne s'est pas retourné contre Dieu, dans le jardin, comme un second Adam, lorsque sans doute le diable a cherché la manière la plus forte à mettre le doute dans son cœur, à le faire douter de l'amour de Dieu, de l'amour de son Père pour lui. Christ ne s'est pas retourné contre Dieu, mais il a dit, Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Et le jugement est tombé sur lui pour que nous ayons le salut. Et c'est ce qui fait dire à Paul, toujours dans ce même passage en Romains 8, une dernière chose qui doit vraiment nous fortifier, nous encourager dans notre marche chrétienne. Que dirons-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui par grâce? Qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui justifie. Qui les condamnera? Le Christ Jésus est celui qui est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Et c'est finalement ça notre plus grande consolation lorsque notre fidélité à Dieu nous met dans des situations extrêmes, c'est de nous rappeler que c'est sa fidélité parfaite qui l'a amené dans la situation la plus terrible. Et que lorsque nous vivons ces choses-là, on ne fait que marcher dans les traces de notre maître et participer à ses souffrances. Alors que ça puisse nous encourager dans la semaine à venir, dans les difficultés et les renoncements par lesquels nous allons devoir passer. Amen.